France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un chassé-croisé dans les intempéries, beaucoup de monde attendu sur les routes à partir de ce soir avec des conditions de circulation délicates. On va faire le point dans un instant. Dans l'ouest, les crues vont se poursuivre tout le week-end, voire au-delà, nous dit à l'instant Vigicru. Nous serons dans le département du Loir-et-Cher. À suivre encore, plusieurs rassemblements en hommage aux militants d'extrême droite Quentin de Ranque vont se dérouler ce week-end en France. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Et le Rassemblement National prend ses distances.
Consigne passée à tous les élus, tous les candidats RN, ne pas se rendre sur ces manifestations pour ne pas s'afficher côte à côte avec des militants identitaires ou d'ultra-droite. Ce serait gênant à quelques semaines des élections municipales.
A tout de suite pour vos explications. Nous verrons qu'à Marseille, la candidate LR Martine Vassal crée la polémique en reprenant à son compte les valeurs et la devise « Travail, famille, patrie ». Nous serons également en Pologne, pays qui déploie des mines à sa frontière Est. Et nous verrons qu'à Barcelone, une étape historique est franchie dans la construction de la Sagrada Familia. À partir de 13h30, le comédien ukrainien Viktor Kirillov avec nous. Il a appris le français en quelques mois et c'est en français qu'il raconte sur scène le choc de la guerre il y a 4 ans et le choix de l'exil. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Les derniers gardiens de phare de France à l'année vont-ils quitter Cordouan ? L'écrivaine Virginie Troussier nous explique. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le chanteur Andy Koch demande Ziggy, extrait de Starmania découvert à l'adolescence.
Je savais pas que quelques années plus tard, j'allais jouer le rôle de Ziggy dans Starmania et que j'allais être choisi par Luc Plamondon. Il y a comme une boucle.
Et on bouclera la boucle avec Julien Baldacchino. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
A, B, C, plus la Corse, bref, toute la France sera concernée ce soir par les vacances scolaires d'hiver. Les Parisiens et les Toulousains vont y entrer, les Dijonais, les Lyonnais et les Bordelais, entre autres, vont en sortir. Cela promet du monde sur les routes, on va voir ça dans un instant. Du monde aussi en station de ski, avec toujours un fort risque d'avalanche. 5 sur 5 dans la plupart des massifs de Haute-Savoie et de Savoie, même si plus aucun département n'est en vigilance orange pour ce risque. Après 28 morts dans les Alpes depuis le début de la saison, le maire de La Clusaz prend la décision, rarissime, d'interdire le hors-piste sur son domaine skiable.
J'ai pris une décision d'un arrêté exceptionnel pour une situation qui l'est tout autant extrêmement dangereuse. Donc il est interdit de pratiquer du ski hors-piste accessible depuis la remontée mécanique sur le secteur de l'Étale, de l'Aiguille et de Balme. Le hors-piste près des pistes est très dangereux également, non seulement pour les skieurs eux-mêmes, mais également pour les personnes qui sont sur les pistes. Un skieur indélicat qui serait en amont peut déclencher effectivement une avalanche qui arriverait sur les pistes. On a des chutes de neige qui sont exceptionnelles et qui vont encore durer. Donc il convient de prendre des bonnes décisions pour éviter d'une part que les usagers soient pris dans des avalanches, mais aussi les pisteurs scoristes qui prennent eux des risques pour aller chercher ces gens-là.
C'est un arrêté essentiellement dissuasif, pas de contrôle prévu. Didier Thévenet, le maire de La Clusaz, avec ici Pays de Savoie. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Des centaines de milliers de véhicules sont attendus ce week-end rien qu'en Savoie, avec toujours des risques avalanches et plusieurs départements sous les eaux. Vous avez fait le point, Luc, ce matin au ministère des Transports.
Ah oui, qui a réuni sa cellule de crise pour en savoir plus sur les perturbations. Elle se concentre principalement dans l'ouest du pays, sur les routes du réseau secondaire. Ce sont pas les grands axes, mais les petites routes. À l'heure actuelle, environ 140 axes sont fermés à la circulation dans la moitié nord à cause des inondations. Et les départements les plus touchés sont le Maine-et-Loire, l'Ille-et-Vilaine ou encore la Loire-Atlantique. Dans la moitié sud, cette fois, 226 axes sont totalement coupés, principalement en Gironde, en Charente-Maritime et en Charente. À noter qu'en Nouvelle-Aquitaine, les vacances se terminent. L'école reprendra lundi. Pour l'instant, le transport scolaire est maintenu, mais les habitants doivent s'attendre par endroits à des déviations. Sur les routes principales, cette fois, les difficultés se concentrent sur le périphérique autour de Nantes, sur l'axe à Rennes-Lorient et sur l'A10 qui permet de rejoindre Bordeaux. Des limitations de vitesse sont imposées aux automobilistes. Concernant le train, les problèmes sont dans le sud. Perturbations sur la ligne Bordeaux-Poitiers avec des limitations de vitesse au nord d'Angoulême, également au nord nord de Béziers, au sud de Périgueux ou encore dans l'Ariège. Rien à signaler en revanche dans l'aérien. Plus globalement, le ministre se veut plutôt confiant avant ce week-end de chasse et croisée de vacances et parle d'une situation sous contrôle, mais appelle tous les usagers à la prudence.
Merci Luc Chemla pour ces informations. Alors les crues justement, très lentes, des crues dans le sud-ouest. Gironde et Lot-et-Garonne sont tout de même sortis de la vigilance rouge. En revanche, statu quo dans l'ouest, Charente-Maritime, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique toujours en rouge. À Saintes, 1300 maisons inondées, 600 personnes évacuées, le pic de crue attendu dimanche. À Nantes, la Loire déborde, une partie du périph' est inondée et fermée dans les deux sens. À Angers, dimanche, le match de Ligue 1 Angers-Lille se disputera à huis clos pour limiter les déplacements des spectateurs. Et puis plus à l'est, c'est un affluent de la Loire, le Cher, qui est sous surveillance. À Montrichard, dans le Loir-et-Cher, la plage et les quais sont noyés et l'eau continue de monter. Sur place, Eva Kling.
Pour accéder à son commerce, Sidonie doit enfiler des bottes. Devant le portail qui donne sur les quais de Cher, des parpaings et des boudins remplis d'eau.
Maintenant, on verra. La dernière fois, on avait 1 mètre d'eau au niveau du portail.
La dernière fois, c'était en 2016. Son imprimerie avait été complètement inondée.
On a des machines, donc il faut faire attention, quoi. Si je me base sur il y a 10 ans, tous les murs là étaient fichus. Toute la partie manutention là-bas, tout avait été très endommagé.
Alors forcément, elle surveille.
Je suis vigicrue, je regarde les réseaux, je me dis informée.
Tout comme un de ses voisins, Olivier, le Cher s'arrête tout juste à son jardin. Ça fait 3 ans qu'il habite Montrichard.
C'est notre première crue, on va dire. On a l'habitude de dire qu'on est quasiment les pieds dans l'eau, mais là, on va vraiment l'être.
À côté de son portail, un tuyau rejette un filet d'eau.
C'est une pompe qui vide la cave au fur et à mesure qu'elle se remplit. Donc, on s'organise.
S'organiser, c'est par exemple surélever les meubles de sa cave avec des parpaings distribués par la mairie. Kevin, responsable technique, coordonne le tout. Le but, c'est surtout de rassurer les habitants.
Ils nous contactent, nous on passe, ils nous voient, ça les rassure. Entre guillemets, la chance qu'on a, c'est qu'elle monte tout doucement, progressivement, comparé à l'année 2016 où c'est monté vraiment rapidement.
Des sacs de sable sont aussi livrés, le tout en tracteur.
Et au départ, on passait avec les camions au tout début. Mais maintenant, on évite parce que bon, on évite de faire des dépannages en plus.
La mairie centralise aussi les appels et ravitaille ceux qui ne peuvent plus sortir de chez eux.
Reportage ici Touraine. Alors du côté du coût de ces inondations, pas encore d'estimation précise des assureurs, mais la facture sera salée. Plusieurs milliards d'euros d'indemnisation pour eux, car au-delà des particuliers et des collectivités, il y a aussi des entreprises touchées. Exemple à Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne, entreprise de conditionnement de fraises. L'entreprise Sacfel a été inondée, son entrepôt de 10 000 mètres carrés. Mais cette entreprise est déjà prête à reprendre son activité, tout cela grâce à ses salariés. Fawzi Trita.
Le grand entrepôt métallique est quasiment propre. Des agents aspirent à toute vitesse les dernières flaques d'eau et la boue. Michael, le patron, casquette vissée sur la tête et doudoune sans manche, est encore époustouflé.
Ben avant, c'était pareil, mais avec 60 cm d'eau, marron. Par contre, là, c'est de nouveau comme c'était avant la crue.
Tous les salariés s'y sont mis pour nettoyer les tapis où sont triées les fraises. Maëlys, 21 ans, elle, astique les tables où sont impactés les fruits.
Là, elle brille, là. Hein.
Ah oui, là, elles sont propres. Mieux qu'avant, déjà. Après, j'étais chez moi, je faisais pas grand-chose. Comme il y a un peu de travail, je suis venue plutôt donner un coup de main. Et si ça peut permettre à la saison de démarrer plus vite, ce serait bien.
Un peu plus loin, Mathis, assistant qualité, trie du matériel.
Tout ce qui va être carton, barquette, séparer ce qui est bon et ce qui est plus bon. C'est notre entreprise et on va dire que sans elle, on n'a plus de travail. Donc en fait, on se pose pas la question, on agit et on fait au mieux qu'on peut. Quoi.
Heureusement, la saison n'avait pas encore commencé. Mais Michael, le patron, retient son souffle pour lundi.
Il y a les machines qui ont été touchées. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour stopper les corrosions. On a beaucoup de chance, hein. On a des salariés qui n'ont pas peur du sacrifice, hein, et qui ne sont pas là. On est dans la merde et on y reste un moment.
Ça mérite une petite prime, ça.
Bien sûr.
Reportage Fawzi Trita dans le Lot-et-Garonne. Il y aura bien une marche en hommage à Quentin Derenque. Demain, dans les rues de Lyon, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a expliqué ce matin qu'il ne demanderait pas l'interdiction souhaitée par le maire de Lyon, Grégory Doucet. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes l'un de nos correspondants à Lyon. Christophe, la manifestation demain sera encadrée par un très gros dispositif policier.
Oui, un dispositif conséquent et non chiffré qui doit permettre de contrôler les 2 à 3 000 personnes attendues dans le cortège. À la préfecture du Rhône, comme au ministère, on estime qu'il n'y a pas de risque manifeste de trouble à l'ordre public et on rappelle la liberté de manifester. Contrairement aux défilés habituels qui empruntent les artères animées et finissent souvent dans la violence, le parcours prévu demain va traverser des quartiers plus tranquilles, avec peu de commerce. Le cortège partira de la place Jean Jaurès à la limite du quartier de Gerland vers 15h. Il évitera la place Jean Massé, un gros pôle d'échange train, métro, bus, tramway, et passera par des rues plus calmes jusqu'au lieu du drame fatal à Quentin, le 11 rue Victor Lagrange. Distance à parcourir, moins d'un kilomètre, soit un petit quart d'heure à pied. Les policiers seront postés dans toutes les rues voisines et utiliseront des drones pour repérer d'éventuels groupes d'extrême gauche qui voudraient croiser la route du cortège des identitaires. Ils surveilleront aussi l'église traditionnelle Saint-Georges, où un chapelet pour Quentin est prévu à 14h. Les participants rejoindront ensuite l'hommage sur les lieux du drame.
Les précisions de Christophe Vincent en direct de Lyon. Merci Christophe. Hier soir, 6 hommes soupçonnés d'avoir frappé à mort le jeune militant identitaire ont été mis en examen pour homicide volontaire. Un autre pour complicité. Il s'agit de Jacques-Élie Favreau, assistant du député insoumis Raphaël Arnaud. Ce matin, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a lui demandé l'interdiction de cette marche, la qualifiant, je cite, de véritable démonstration fasciste. Le Rassemblement National lui soutient cette marche, mais tout en prenant ses distances, Marie Mollet, on vous retrouve. Le RN demande à ses cadres de ne pas participer à ces manifestations ce week-end, qu'elles aient lieu à Lyon ou ailleurs.
Oui, consigne passée dans un message signé par Jordan Bardella ce matin. Recommandation, ne pas se rendre sur ces manifestations. En effet, ni à Lyon ni ailleurs, ne pas y associer le Rassemblement National d'une quelconque façon. Et la règle vaut aussi pour tous les élus, tous les candidats. Pourquoi ? Officiellement pour des raisons de sécurité. Il peut y avoir des antifas prêts à en découdre, hein, croit savoir un élu RN. Et puis la famille ne veut pas politiser l'affaire, a expliqué Jordan Bardella ce matin. Et nous refusons, écrit-il, d'y côtoyer l'ultra-droite. C'est en effet la hantise du parti d'extrême droite, voir ses élus se retrouver côte à côte avec des militants identitaires. Par exemple, des images qui seraient embarrassantes à quelques semaines du scrutin des municipales, alors que le RN peine à purger de ses rangs les profils les plus radicaux. Le RN qui marche sur un fil, car Jordan Bardella a largement participé à la politisation de l'affaire, appelant à un cordon sanitaire contre l'extrême gauche. Il n'a pas pour autant appelé à interdire cette manifestation, malgré les risques sécuritaires qu'il évoque lui-même. Nous n'avons pas les éléments, pas les renseignements, c'est à Beauvau de trancher, balaie un cadre du parti.
Décryptage signé Marie Mollet. Ce drame a aussi des conséquences politiques sur les élections municipales à gauche. La direction du Parti Socialiste explique ce matin qu'il pourra y avoir de rares rapprochements avec la France Insoumise au second tour des municipales si ces candidats, je cite, s'opposent à la violence politique. Les municipales, justement, avec cette déclaration qui fait beaucoup réagir depuis hier soir. Les mots de Martine Vassal, la candidate Les Républicains soutenue par Renaissance pour la mairie de Marseille. C'était hier soir lors d'un débat organisé par le journal La Provence. Explication à Marseille, Mathilde Vinceneuf.
Sur le plateau du débat télévisé, Martine Vassal, la candidate des Républicains et des Macronistes, est interrogée sur sa position vis-à-vis du Rassemblement National. Elle explique partager certaines préoccupations avec les électeurs du RN et répond
« Mes valeurs, elles n'ont jamais changé. »
Donc vous dites ni LFI, ni RN.
C'est le mérite, le travail, la famille, la patrie.
Puis Martine Vassal ajoute que ce qui la différencie du candidat RN Franck Alizio, c'est l'humanité et la solidarité, mais elle est coupée par le maire sortant de Marseille, Benoît Payan, qui l'interpelle. « Vous vous rendez compte de ce que vous avez dit » demande-t-il.
Je crois que vous avez dit « travail, famille, patrie ».
Oui,
oui, c'est le slogan du monsieur Pétain, ça.
Oui, d'accord, mais d'accord. Moi, c'est mon slogan et ce sont mes valeurs.
Okay.
Le candidat du RN, Franck Alizio, lui, continue de tendre la main à la candidate de la droite et du centre pour le second tour, mais prend immédiatement ses distances avec ce slogan du régime de Vichy.
Je ne reprendrai pas la devise pétainiste, ça c'est sûr, je la laisse à Madame Vassal.
À la sortie du débat hier soir, Martine Vassal se défend sur X. « Me comparer à Pétain est une attaque aussi violente qu'injuste », écrit-elle. Ses alliés, eux, volent à son secours. « Je soutiens pleinement Martine Vassal », écrit le président de la région PACA, Renaud Muselier.
Mathilde Vinceneux, notre correspondante à Marseille. À l'Assemblée nationale, l'examen de la proposition de loi sur l'aide à mourir se poursuit avec ses dernières heures, l'adoption d'un article clé. C'est l'article 4 qui définit les critères pour prétendre à ce droit. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Vous suivez ces débats en direct pour Inter. Que dit cet article précisément, Alice ?
Eh bien, l'article adopté exclut les mineurs de l'aide à mourir. Pour y accéder, il faudra avoir plus de 18 ans. À la différence de pays comme la Belgique ou la Suisse, qui acceptent depuis de nombreuses années des patients français, les ressortissants étrangers ne pourront pas prétendre dans l'Hexagone à l'aide à mourir. Seuls les citoyens de nationalité française pourront donc y avoir accès, ou les personnes résidentes en France de façon stable et régulière. Quant au profil médical du patient, il doit être atteint d'une maladie incurable, sans espoir de guérison donc, une pathologie en phase avancée ou terminale, entraînant des souffrances insupportables, physiques ou psychiques. Les députés ont réaffirmé que le patient devait impérativement être capable de discernement libre et éclairé jusqu'à la réalisation du geste ultime. En revanche, ils ont refusé d'exclure de l'aide à mourir une liste précise de pathologies psychiatriques ou handicaps mentaux.
Un mot du calendrier, Alice, la proposition de loi doit être votée la semaine prochaine, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mardi prochain a lieu le vote solennel, mais la loi a encore beaucoup de chemin à parcourir. S'il est adopté, le texte repartira en deuxième lecture au Sénat. Ensuite, une commission mixte paritaire pour essayer de mettre d'accord députés et sénateurs. Mais comme le Sénat a rejeté le texte il y a quelques semaines, cette commission devrait sans surprise être non conclusive. Il faudra alors une troisième et dernière lecture à l'Assemblée, l'objectif étant pour l'Élysée de faire adopter le texte avant la fin de l'année.
Merci Alice Cachaner. L'arrivée sur la chaîne BFM TV de la journaliste Sonia Mabrouk, qui a quitté ces derniers jours les chaînes CNews et Europe 1 en raison d'un désaccord. Elle reprochait au patron de ces chaînes de maintenir à l'antenne Jean-Marc Morandini.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est une querelle qui engage l'avenir de nos sociétés, tant l'intelligence artificielle prend chaque jour une place grandissante dans nos vies. Au sommet sur l'IA qui se déroule en ce moment en Inde, à New Delhi, deux visions se font face. Les Américains qui alertent sur les risques que l'IA puisse un jour faire sécession et prendre le contrôle sur les machines, par exemple. Et puis les Européens qui, eux, dénoncent la mainmise américaine sur cette technologie. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez ces débats passionnants autant qu'inquiétants en ce moment en Inde. Stéphane, hier, c'est le père de l'intelligence artificielle ChatGPT, l'américain Sam Altman, qui a ouvert la controverse.
Oui, le PDG d'OpenAI a profité de la tribune du sommet de l'IA pour tirer la sonnette d'alarme. Le monde fait face à un danger existentiel et il est urgent de réguler l'IA.
Nous en avons besoin et c'est urgent, comme nous les avons pour d'autres technologies aussi puissantes. Nous pensons notamment que le monde doit se doter d'un équivalent de l'AIEA pour être en capacité de réagir rapidement si les circonstances l'imposent. Pour l'instant, nous ne savons pas ce qui va se passer si des dictateurs et des pays totalitaires mettent à profit les potentiels d'une super-intelligence.
Depuis des semaines, son concurrent anthropique, Dario Amodei, tient à peu près le même discours. Attention aux IA autonomes qui risquent de ne plus répondre aux ordres des humains. Et ce matin, c'est leur concurrent français de Mistral, Arthur Mensch, qui a décidé de riposter. Interrogé par France Inter et Le Monde, il accuse les Américains de chercher à détourner notre regard.
C'est des discours de distraction. En réalité, le vrai risque de l'intelligence artificielle qui arrive là, c'est de l'influence massive sur la manière dont les gens pensent, sur la manière dont les gens votent. Et il se trouve que les outils qui vont avoir cette influence sont entre les mains des gens qui vont vous parler de risques extrêmes, mais d'une certaine manière, ça reste de la science-fiction. Et donc, de mon point de vue, c'est de la diversion qui est faite de manière complètement réfléchie pour être de la diversion.
Vous l'entendez, Jérôme, la charge est lourde. Arthur Mensch reproche aux Américains de vouloir nous dicter leur façon de voir le monde, comme avec les réseaux sociaux, et d'éviter tout débat sur leur quasi-monopole actuel sur les IA. Hier, à notre micro, le français Yann Lequin, un des pères des IA modernes, disait exactement la même chose en ciblant Dario Amodei.
Pour rester poli, c'est du absolument du n'importe quoi. Et à mon avis, c'est un discours extrêmement dangereux.
En matière d'IA, comme en matière de presse, il faut de la pluralité, dit-il. Et voilà donc un nouveau front qui se dessine entre les Européens et les Américains.
Merci Stéphane Jourdain pour ses explications en direct d'Inde pour Inter. Une nouvelle mission pour le porte-avions français, le Charles de Gaulle. Il se déploie en ce moment en Atlantique Nord et en mer Baltique, annonce le ministère des Armées. Le navire arrivera dans 5 jours dans le port suédois de Malmö, la Suède, qui craint des menaces russes. C'est le cas aussi de la Pologne, qui à partir d'aujourd'hui relance sa production de mines antipersonnelles. Cette arme très controversée était jusque-là interdite par la Convention d'Ottawa, mais la Pologne l'a dénoncée. Comme ses voisins baltes, le pays souhaite profiter de cela pour se renforcer militairement et poser davantage de mines à ses frontières avec la Russie. Adrien Sarla est à Varsovie.
Les champs de mines, qu'on pensait enterrés avec la Seconde Guerre mondiale, pourraient bientôt réapparaître en Europe le long de la frontière polonaise. Le ministre de la Défense parle d'une nécessité pour la sécurité nationale.
La situation nous y oblige. La Pologne ne peut pas être limitée par des conventions qui vont à l'encontre de notre politique de dissuasion ou de défense. Aujourd'hui, le rôle des politiciens est de dissoudre les corsets dans lesquels les militaires ont été enfermés, et c'est ce que nous faisons.
Varsovie entend déployer sa future production le long des 800 km de frontières qu'elle partage avec la Russie et la Biélorussie pour renforcer son bouclier oriental, censé protéger l'Europe et l'OTAN d'une invasion sur leur flanc est. Mais Yulia Gwembotska, analyste chez Amnesty International à Varsovie, rappelle que 85% des victimes de ces mines sont généralement des civils et juge cette décision en inadéquation avec la menace.
Selon les spécialistes, la guerre entre la Pologne et la Russie, si elle devait avoir lieu, prendrait plutôt la forme de combats hybrides avec des drones, ce qui signifie que ces mines ne trouveront aucune utilité sur le champ de bataille. Et pendant les prochaines années, les prochaines décennies, elles continueront d'être une menace pour les habitants des régions frontalières.
Une fois que le pays aura satisfait ses propres besoins, il n'exclut pas d'exporter sa production. La Lettonie a déjà fait part de son intérêt. Adrien Sarla, Varsovie, France Inter.
Et de son côté, le Danemark annonce aujourd'hui qu'il va consacrer 160 millions d'euros pour renforcer la préparation de la société danoise en cas de guerre ou de crise. L'Ukraine, elle, annonce qu'elle va boycotter, en tout cas ses athlètes paralympiques vont boycotter la cérémonie d'ouverture des Paralympiques de Milan-Cortina. Ce sera cette cérémonie le 6 mars à Vérone, boycott pour protester contre la décision du Comité international paralympique d'autoriser les athlètes russes à concourir sous leur drapeau national. Ce qui nous amène aux Jeux olympiques d'hiver en ce moment à Milan Cortina avec il y a quelques minutes l'épreuve de ski cross pour les femmes. Ce sont ces skieurs ou skieuses qui s'affrontent en simultané sur des parcours avec des sauts et des bosses. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
En direct de Livigno, ça n'a pas souri pour les Françaises.
Et non, malheureusement, encore sur ce site de Livigno, encore sur cette piste de cross, une quatrième place pour Marielle Berger-Sabatel. On y a cru pourtant pendant toute cette finale, hein, Marielle Berger-Sabatel qui avait fait un départ très moyen, mais qui dans tous les virages a tenté d'attaquer, qui n'a jamais rien lancé, dans toutes les bosses a tenté de dépasser les trois adversaires qui étaient devant elle avec ce podium virtuel. Jusqu'au bout, elle y aura cru. Elle a même un moment pris la troisième place, Marielle Berger-Sabatel, avant d'être dépassée à nouveau par la Suédoise Sandra Naeslund, championne olympique en titre, qui s'empare cette fois du bronze. En argent, c'est la Suissesse Fanny Smith, championne du monde en titre, et Daniela Mayer, l'Allemande, qui s'empare de l'or. C'est donc fini pour Marielle Berger-Sabatel, qui réalise néanmoins, pour ce qui sera la dernière saison de sa carrière, son meilleur résultat en 3 Jeux olympiques, puisque elle avait atteint sa première finale de toute sa carrière. 4e place donc pour Marielle Berger-Sabatel, et 6e place pour Jade Grillet-Aubert, la 2e française la mieux classée, qui éliminée en demi-finale, a terminé 2e de la petite finale. Toujours pas donc de médaille ici à Livigno, et encore une fois une grosse déception.
Merci Emma Sarango en direct d'Italie. Peut-être l'équipe de France de biathlon va-t-elle poursuivre sa moisson cet après-midi. On suivra l'épreuve de mass start peu après 14h. Pour cette équipe, c'est aussi un sans faute pour l'instant. 2 victoires en 2 matchs dans le tournoi des 6 nations de rugby pour l'équipe de France, qui dimanche à 16h10 va recevoir l'Italie. Non pas au Stade de France, mais à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Jérôme.
Ce matin, le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé son 15 avec 2 changements.
Oui, 2 changements par rapport à l'équipe qui a surclassé le Pays de Galles dimanche dernier à Cardiff. La deuxième ligne est entièrement renouvelée. Charles Olivon et Michael Guillard, titulaires lors des 2 premiers matchs de ce tournoi, seront remplaçants, ou plutôt finisseurs, hein, selon la terminologie.
Vous parlez bien le Galthié, Vincent Pellegrini.
Fabien Galthié. Ils laissent leur place aux Toulousains Thibaut Flamand et Emmanuel Méafou, 2 joueurs au profil plus physique. Il est vrai que les Italiens ont été très performants dans le défi physique depuis le début du tournoi et l'encadrement de la squadra n'a pas voulu que le toit du stade Pierre-Mauroy soit fermé dimanche. Il faut l'accord des deux équipes pour que ce soit le cas. Signe que les Italiens veulent privilégier le combat sous la pluie annoncé dimanche à Lille et compliquer le jeu des trois quarts français très efficace depuis le début de ce tournoi.
Pour l'instant, c'est un carton plein au niveau des points pour l'équipe de France. C'est aussi un carton plein du côté des audiences.
Oui, la meilleure audience télé de l'an dernier, toute chaîne et tout programme confondu, c'est le dernier match du tournoi France-Écosse qui allait offrir le titre aux Bleus. 10 millions de téléspectateurs, 1 million de plus que la finale de la Ligue des Champions, PSG-Inter Milan. Dimanche dernier, lors du match Pays de Galles-France, diffusé l'après-midi, TF1, qui a racheté une partie des droits à France Télé, a réuni un peu plus de 7 millions de téléspectateurs. Une audience exceptionnelle pour un dimanche après-midi, d'autant que le suspense était totalement absent de cette rencontre. Aujourd'hui, on peut affirmer que le 15 de France attire plus de téléspectateurs que les grands matchs de football. Et si les coéquipiers d'Antoine Dupont jouent pour le Grand Chelem, le dernier match du tournoi le 14 mars face à l'Angleterre, l'audience pourrait atteindre des sommets.
Merci Vincent Pellegrini. Restons à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord avec la réouverture aujourd'hui d'un musée très singulier après un an et demi de travaux pour rénovation. C'est le LAM avec une triple collection art moderne, art contemporain, art brut, un musée qui existe depuis 43 ans grâce à la donation de deux collectionneurs nordistes, un musée qui est donc à redécouvrir ou à découvrir, Camille Marigot, avec ce nouvel accrochage.
Passé le grand hall encadré par ses murs en briques, la collection intitulée Obsession débute avec ces immenses photos d'archives qui interrogent l'état de transe.
Comme si on était dans un état second.
Sébastien Faucon, directeur du LAM.
C'est comme si on avait pris beaucoup d'alcool ou des drogues et donc il y a ce sentiment un peu d'étrangeté qui se crée pour le visiteur et c'est l'œuvre qui nous accueille.
Une collection qui s'est encore enrichie à l'occasion de ce réaccrochage.
On a travaillé avec le Centre National des Arts Plastiques pour un dépôt complémentaire, ce qui permet de faire venir des artistes qui étaient présents dans la collection, le peintre Dado qu'on voit sur les murs, ou des artistes avec lesquels en fait ils dialoguent aisément et qu'on n'avait pas, comme cet artiste japonais qui s'appelle Tetsumi Kudo, qu'on a ici sur les deux petites sculptures et puis au sol. Donc c'était un peu une logique complémentaire, renforcer des ensembles et faire aussi rentrer des artistes importants et qui nous manquaient.
On croise toujours les incontournables Modigliani, Picasso, Braque dans les salles du musée, inondées de lumière grâce aux nouvelles ouvertures vers l'extérieur.
C'est un musée-jardin et il doit le rester. Et on doit pouvoir toujours avoir ces vues qui complètent aussi le parcours avec des œuvres qui sont installées dans ce parc, une dizaine, avoir par transparence ce jeu sur l'architecture du musée.
Les habitués du LAM pourront aussi redécouvrir après 10 ans d'absence les trois cabanes éclatées en une de Daniel Buren, une œuvre kaléidoscopique et emblématique de cette collection.
Reportage Camille Marigot. Alors un an et demi de travaux pour ce musée à Villeneuve-d'Ascq. Là, le chantier a débuté en 1882 et il n'est pas encore terminé, même s'il a franchi une étape importante aujourd'hui à Barcelone. C'est le jour du couronnement pour la Sagrada Familia, la dernière pièce de la tour centrale vient d'être installée avec la pose du bras supérieur de la croix qui couronne désormais cette tour principale. La Sagrada Familia devient l'église la plus haute du monde, 172 mètres de hauteur. Henri de Laguerry, vous êtes à Barcelone au pied du bâtiment, vous suivez cette opération très délicate.
Oui, le bras supérieur de la croix, une pièce en céramique blanche de 4 mètres de haut, a été installée en milieu de matinée. L'élément de 11 tonnes a été posé tout en haut de la tour de Jésus grâce à une immense grue. L'opération qui s'est déroulée sous un soleil éclatant a été suivie par des milliers de personnes comme Stéphanie Orsel, docteur en histoire de l'art, passionnée de la Sagrada Familia, dont elle a suivi plusieurs étapes de la construction.
C'est vraiment symboliquement l'achèvement de la Sagrada Familia, mais c'est vraiment émouvant. Moi, je suis comme une petite fille, là, parce que moi, je suis une petite avec tenant la main de mon père. Personne venait, c'était l'église jamais finie, un peu de l'architecte un peu fou de Barcelone. Et là, ça y est, officiellement, c'est la plus haute du monde. Pour moi, c'est vraiment historique.
La Sagrada Familia culmine désormais à 172,5 mètres de haut, soit un peu moins que les 180 mètres de la colline barcelonaise de Montjuïc, car selon Gaudi, Dieu ne voulait pas que l'œuvre de l'homme soit plus haute que l'œuvre de la nature. Le chantier est dirigé par Mauricio Cortés.
L'achèvement des tours centrales constitue une étape très importante et puis cela coïncide avec le centenaire de la mort de Gaudi, ce qui rend ce moment encore plus émouvant.
Le pape Léon XIV est attendu ici au mois de juin pour inaugurer cette tour de Jésus. Reste à construire la façade de la gloire, l'entrée principale de la basilique, un chantier qui devrait durer 10 ans.
Et qui n'est donc pas terminé. Henri de Laguerry à Barcelone pour Inter, 13h28. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Patricia Charbonnier. Puis à partir de 13h30, le comédien ukrainien Viktor Kirillov avec nous, 4 ans après l'invasion de son pays par la Russie. Il a choisi l'exil et la France et il le raconte sur scène. En ce moment, si vous voulez être avec nous, dialoguer avec nous, 01 45 24 7000, vous connaissez le chemin. 13h45, notre feuilleton avec notre gardien d'immeuble, également pianiste virtuose. Il donne aussi des cours et il prend soin de ses élèves. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier, Julien Baldacchino, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous nous parlez des phares aujourd'hui.
Oui, on parle des Irréductibles de Cordouan, les derniers gardiens en France à habiter un phare. On reviendra sur leur mission essentielle et sur cette vie qu'ils ont choisie entre solitude, vents et marées.
Et avec vous, Julien, un chanteur.
Le comédien et chanteur Andy Koch qui nous raconte un garçon pas comme les autres, surnommé Ziggy, chanté par Céline Dion.
Ah oui, on va réécouter Starmania, à tout de suite.
Ce samedi, c'est la rappeuse Deuxel qui vient faire du tapage.
France Inter, 20h, Camille Diao.
La finaliste de Nouvelle École de Netflix sort son nouveau projet. Elle viendra le présenter en live avec une reprise inédite.
Tapage.
C'est tous les samedis à 20h sur France Inter.
Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+, la radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio.
DAB+. DAB+. Trois lettres pour une révolution de la radio.
Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab-plus.fr.
4 anneaux, une évidence. Découvrez l'Audi Q4 e-tron, le SUV compact 100% électrique, en finition S-Line suréquipée. L'incontournable de la gamme, avec une autonomie allant jusqu'à 545 km. À partir de 490€ par mois avec apport. Réservez votre essai chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 7 300€ ramené à 2 700€ après déduction de la prime CE. Valable pour toute commande d'une Audi Q4 e-tron dans le réseau participant en France. Offre réservée aux particuliers, si accord par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour Jérôme.
On retrouve enfin un temps plus calme.
Oui, l'horizon s'éclaircit déjà, on en retrouve un petit peu de lumière aujourd'hui. Alors c'est une amélioration qui va se faire progressivement dans un premier temps par le sud grâce à l'anticyclone des Açores qui regonfle. Enfin, sur la moitié nord, ce sera beaucoup plus long. On est toujours sous l'influence des perturbations qui cette fois-ci descendent des îles britanniques. Donc cet après-midi, encore quelques averses, mais vraiment très faibles entre le nord-est et le nord des Alpes et encore un petit peu de neige à partir de 1000 mètres. La vigilance orange est levée pour les avalanches, mais attention, le risque d'avalanche est encore très marqué. Il a beaucoup neigé. On a eu de fortes rafales de vent. Le manteau neigeux est très instable. On a un petit peu de pluie encore, mais vraiment très faible cet après-midi près des côtes de la Manche et partout ailleurs. Là, on retrouve un temps sec. Le risque d'averse est vraiment très limité. Les éclaircies s'imposent cet après-midi enfin entre les côtes vendéennes et le littoral aquitain près des Pyrénées et dans le sud-est avec des températures qui repartent à la hausse. Météo France annonce 19 degrés cet après-midi à Bastia.
Ouais, c'est doux.
12 à Paris. Ouais. Cet après-midi, et c'est que le début. Hein.
Et ce week-end, le soleil sera de retour dans le sud.
Ah, sur toute la moitié sud. Vraiment,
d'accord.
Dimanche, ce sera un temps très ensoleillé, un temps printanier sur la moitié sud. Sur la moitié nord, il faudra encore patienter un petit peu. On aura un petit peu de pluie, rien à voir avec le défilé de perturbations de ces dernières semaines, mais ça reste encore assez humide. Et puis en milieu de semaine prochaine, là, deux belles journées à noter, mardi, mercredi, du soleil pour tout le monde et un pic de douceur jusqu'à 26 degrés au pied des Pyrénées et 17 degrés à Paris.
Voilà qui va faire du bien. Merci Patricia Charbonnier.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Viktor Kirillov.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous avez 24 ans, vous êtes comédien et metteur en scène, réfugié en France depuis 2022, depuis l'invasion de votre pays, l'Ukraine, par la Russie. C'était il y a 4 ans, quasiment jour pour jour. À l'époque, vous êtes étudiant en théâtre à Moscou et vous faites le choix de quitter la Russie et de ne pas rentrer en Ukraine. Ce double choix, vous en avez fait une pièce intitulée « Maintenant, je n'écris plus qu'en français ». Elle est donnée en ce moment au Théâtre de Belleville à Paris. 01 45 24 7000 pour vos questions, vous qui nous écoutez, vous passez également pour vos messages via l'application Radio France, c'est l'onglet « Réagir ». Viktor Kirillov, d'abord bravo. Bravo pour votre français. Vous êtes arrivé en France, je l'ai dit, il y a 4 ans, vous ne parliez pas un mot. Là, vous avez un seul en scène qui dure 1h30, 1h15. Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez appris?
Quand je suis arrivé, j'ai passé par le centre d'accueil et pour les réfugiés ukrainiens. Enfin, et j'avais rien à faire. J'avais demandé les manuels de français, et puisque j'avais pas d'emploi, rien du tout. J'ai passé toutes mes journées à apprendre cette langue. Et j'avoue que mon métier m'a bien servi, vu que c'est mon métier d'apprendre les mots, les façons de parler, etc. Et j'ai juste imité comment les gens autour de moi parlent. Et
qu'est-ce que vous faisiez? Vous écoutiez des émissions de radio, vous regardiez la télé, vous alliez dans les cafés pour écouter les gens. Comment vous avez fait?
Un peu de tout et un peu de tout. Quand j'ai déménagé à Paris, j'avais pas mal de copains français au conservatoire. Et avec eux, j'ai dit directement que j'ai pas envie de parler anglais, j'ai envie de parler qu'en français. Et tant pis si j'ai l'air con, mais j'ai envie de parler cette langue. Et enfin, j'ai passé au bar avec eux, je les ai écoutés et je faisais l'air comme si je comprenais rien, alors que je comprenais peut-être 2-3 mots. Mais à force d'écouter et de passer les jours et nuits entières à apprendre, enfin, je suis arrivé à acquérir cette langue et comme ça. Et ben aussi, c'est parce que c'était une sorte de refuge pour moi de ne plus parler et un peu oublier mes deux langues maternelles.
Quel est votre mot préféré en français?
Ouais. Patience.
Patience. Pourquoi patience?
La sonorité, elle est très belle. Et le sens aussi.
Ouais. La patience, il vous en a fallu ces 4 dernières années?
Oui. Ouais. Et surtout que ça ressemble beaucoup à un autre mot, passion.
Ah, passion.
Et je trouve que c'est une belle sonorité commune, quoi.
Votre passion, c'est le théâtre? Depuis tout jeune, Victor Kirillov, vous avez grandi à Odessa, la grande ville du sud de l'Ukraine, que vous comparez à Marseille ou à Naples, sur scène. Dites-vous, adolescent, vous rêviez non pas de Molière, de Victor Hugo ou d'autres grands auteurs français, mais vous vous imaginiez sur la scène du Théâtre d'Art de Moscou, où vous rêviez de réussir. Pourquoi ce rêve?
Il faut dire que la culture russe, elle était très imposée en Ukraine, vu son passé soviétique, et que moi j'avais grandi dans un appartement où on avait énormément de la littérature russe, et que c'est plutôt ma famille qui m'a transmis cet amour pour la culture précisément russe, parce qu'il n'y en avait pas d'autre en Union soviétique, il était imposé, et j'avais lu beaucoup de Dostoïevski, de Gogol, et c'est plutôt cette littérature qui m'a créé ce rêve. Et ensuite, j'ai découvert le cinéma, les soviétiques, les comédiens, et surtout ces grands mythes de Moscou, de Stanislavski, de Tchekhov, etc. Et je voulais apprendre ces métiers au plus près de la source, quoi.
Donc vous parvenez à intégrer l'une des plus grandes écoles de théâtre de Russie. Vous êtes sur la voie royale. En fait, il y a une grande carrière qui s'ouvre à vous. En 2022, quand arrive le 24 février, vous racontez d'ailleurs sur scène, on va vous écouter, le choc de l'invasion de votre pays par les troupes russes, alors que vous étudiez, vous, l'art dramatique à Moscou.
Est-ce qu'il faut commencer par les contextes historiques, les circonstances politiques qui ont précédé les événements? En quelle langue faut-il que je parle? En ukrainien? Non. En russe? Plus jamais. Il me faut quelque chose d'autre. Une autre langue pour... témoigner. Le français, ça me paraît bien. Le mieux, c'est de commencer par le moment où ma vie est devenue absurde. C'était à Moscou, le 24 février 2022.
Qu'est-ce qui se brise en vous ce jour-là, Victor Kirillov?
C'est que mon rêve d'enfance, qui était pour moi quelque chose de naturel, quelque chose d'un ordre commun, est devenu dans mes yeux... Premièrement, dans mes yeux à moi, comme une trahison envers ma patrie et mon pays, parce que j'ai jamais imaginé, je me suis jamais perçu dans l'angle politique de mon choix d'aller à Moscou et en Russie.
J'ai même voulu... si à cette époque-là, la Crimée a été annexée, il y a la guerre dans le Donbass, mais vous vous dites pas, aller à Moscou, c'est un peu trahir l'Ukraine finalement. Il n'y a pas cette réflexion-là.
Non, non, c'était un choix juste pour parler, jouer en russe, travailler avec ces auteurs-là. Et j'avoue, j'avais 17 ans, je ne me prenais pas la tête avec la politique. Et tout ce que je me disais, c'était ce n'est que Poutine. Mais les Russes, ils ne sont pas comme ça. Et voilà, enfin, c'est pas une grande guerre à grande échelle comme aujourd'hui, par exemple. Mais quand le 24 février est arrivé et que les bombes sont tombées pas juste dans le Donbass, mais aussi à Odessa, dans ma ville natale, et que ma mère m'a appelé en me disant « Voilà, on s'est réveillé à cause des bombardements. » Là, j'ai beaucoup changé d'un coup dans ma tête. Et bien sûr, j'ai pris en compte la guerre de 2014, la Crimée. Et j'ai trouvé que c'était peut-être une erreur de ma part. Mais c'était un rêve. C'était un rêve d'adolescent. Et si je peux me justifier, voilà. Enfin, c'était un rêve. Et est-ce qu'on juge les gens par leurs rêves?
Vous dites justifier. Il y a un peu de cette justification dans le spectacle. Et vous abordez toutes ces questions avec beaucoup d'honnêteté. Vous mettez à nu devant le spectateur et vous mettez en scène aussi les interrogations qui ont été les vôtres. Il y a un moment très fort. Vous êtes devant votre miroir et vous vous reprochez, à moins que ce ne soit à votre double, je ne sais pas, votre attirance passée pour la culture russe.
Mmh. Oui, vu que la guerre, elle invoque beaucoup de sentiments et notamment la haine qu'on normalement on sent pas dans la vie quotidienne par rapport à notre adversaire. La haine se propage partout, un peu, dans ton corps, dans tes pensées, et que même pour tu commences à te haïr toi-même quand tu vis dans la haine. Et moi, je me suis dit, enfin, je pensais, enfin, c'est comme ça que je me vois dans le miroir. C'est que je me dis à moi-même que, en fait, j'ai tout foutu, et c'était mon choix, et c'est moi qui suis un traître, pas les autres. Et quand je me suis
un traître
dit, un traître, ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme moi je me ressentais à l'époque. Et si je me suis dit, si je vais écrire quelque chose sur ma vie ou sur ce qui s'est passé avec moi, j'ai envie d'en parler sous cet angle là et raconter cette problématique que normalement, enfin, je sais pas si on le retrouve ou on en parle souvent.
Voilà. C'est ce qui fait à ce moment-là que vous vous dites « je ne peux pas rentrer en Ukraine, on va me considérer comme un traître » ou bien il y a la volonté d'aller au contraire en Ukraine pour laver peut-être ce passé à Moscou et s'engager.
Il y avait cette volonté, il y avait cette grande volonté et que au départ je voulais pas même venir en France, enfin c'était pas dans mes plans de venir en France. Je voulais rentrer chez moi et être près de ma famille et de vivre ces drames avec eux. Mais à cause d'un conflit avec ma famille qui m'a supplié de ne pas rentrer, qui m'ont dit que j'ai eu de la chance de ne pas être en Ukraine à ce moment-là et qu'ils me pardonneront pas si je rentre. J'ai pris une décision de me réfugier.
Votre mère vous dit « ce n'est pas l'Ukraine qui t'a porté dans son ventre, c'est moi ». Et elle vous intime l'ordre de ne pas rentrer en Ukraine.
Oui, c'était un peu... En fait, j'ai fait un résumé de toutes les discussions que j'ai eues avec ma mère pendant une semaine entière.
Ça a été long.
Et c'était des phrases comme ça. Et on peut dire que c'était des... manipulation, etc. Mais je sais pas. Je sais pas, c'était comme ça. Et juste, j'avais envie de raconter mon histoire.
Votre famille est là aujourd'hui avec vous, en France, je crois, Victor Kirillov.
Oui, ma famille, ils sont venus en France quelques mois après mon arrivée.
On va en parler ensemble dans un instant. Elle est avec vous, votre famille, dans votre nouvelle vie. Vous avez intégré le Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris, l'Académie de la Comédie française. Vous y avez croisé un grand comédien français, beaucoup, mais un grand comédien français qui a un message pour vous aujourd'hui. C'est Guillaume Gallienne.
J'ai eu la chance de connaître Victor Kirillov à la Comédie française où il était académicien. J'ai tout de suite été séduit par son regard, comment il était attentif au spectacle, au travail des uns et des autres, et comment il était impliqué. Et puis j'ai découvert son spectacle, son monologue extraordinaire qui s'appelle donc maintenant je n'écris plus qu'en français au Théâtre de Belleville. Et j'ai été bouleversé par évidemment son histoire, mais par la façon dont il la raconte, dont il l'incarne, tout ça dans un français extraordinaire et avec tellement d'intelligence. Ce que j'aime par-dessus tout dans sa démarche et dans ce monologue, c'est que il pose pratiquement toutes les questions sans donner de réponse. Il nous fait travailler. Voilà. Il nous émeut, mais il nous fait réfléchir et il nous fait travailler, nous. Et ça, je trouve ça remarquable. Et c'est un très bon acteur. Victor, à bientôt.
Le comédien réalisateur Guillaume Gallienne qui nous a envoyé ce message en pleine nuit, sortait de scène après avoir joué Hamlet sur la scène du théâtre de l'Odéon à Paris. Victor Kirillov, une réaction, vous avez joué avec Guillaume Gallienne ?
Déjà, merci Guillaume, forcément. Oui, on avait fait Les Bourgeois Gentilhommes,
ouais.
mis en scène par Christian Reck et Valérie Lessort. Et moi, j'avais fait un rôle d'académicien. Il y avait deux valets chauves de Christian Eck. Et moi, j'avais fait ces rôles-là. Et c'est là où on s'est rencontrés, qu'on avait pu s'échanger autour de la culture. Il était très intéressé par les côtés slaves, enfin, parce qu'il a un peu un intérêt envers cette culture. Et il parle un peu russe et c'était assez marrant de voir quelqu'un à la Comédie française, le dernier endroit où je me disais que je vais entendre russe, quoi.
Et c'était là.
Ouais.
Merci Victor Kirillov d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce 13-14, d'avoir partagé avec les auditeurs de votre passé et puis de votre nouvelle vie en France. Maintenant, je n'écris plus qu'en français. Reprise en ce moment, profitez-en, au Théâtre de Belleville à
et
Paris.
Et aussi en avril.
En avril ?
En avril, ça va être repris aussi au Théâtre de Belleville.
Reprise encore en avril.
Et si jamais à Avignon, au Théâtre Honz.
Voilà, vous aurez la chance de le voir peut-être à Avignon. Merci Victor Kirillov d'avoir été avec nous aujourd'hui, 13h46. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton autour du piano, celui d'Audric de Oliveira, ce virtuose passé par de prestigieuses écoles mais qui, faute de pouvoir vivre de son art, est devenu gardien d'immeubles à Paris. Et dans sa loge, il continue de donner des cours avec une éthique du professeur, car Audric a connu des enseignants maltraitants qui ont failli le briser.
C'est juste
coucou. Bah Sarah,
l'une de mes plus fidèles élèves.
Alors, tu as travaillé le petit menuet ?
Oui, ça j'ai travaillé. Et ça j'ai travaillé. Non, ça j'ai pas fait.
Ça ?
Ouais, ça j'ai fait.
Oui, ça t'as fait ?
Oui, ça j'ai fait.
Vas-y, je t'écoute.
Un bon prof de piano, pour moi, c'est d'abord un prof qui donne à l'élève l'envie de jouer, l'envie d'être au piano, l'envie d'y retourner. Malheureusement, il y a beaucoup de professeurs qui vont dégoûter les élèves, voilà, il faut le dire. Je ne force pas trop au départ sur la théorie, le solfège, la lecture de notes, etc. Je préfère déjà développer le côté musique, sentiments, émotions. L'une des choses que j'adore faire dans les tout premiers cours de piano que je donne, c'est improviser. Improviser au piano, découvrir les sons, les vibrations, ça éveille toujours une fascination chez les gens. Mes élèves, ce sont essentiellement des adultes, et ça va de tous les âges, de 20 à 80 ans, et c'est surtout des gens de entre 60 et 80 ans, voilà, des retraités, voilà, qui ont toujours rêvé de reprendre ou de commencer le piano. Mais c'est des gens qui ont une vraie envie. Durant plusieurs années, 4 ans pour être exact, j'ai malheureusement fait les frais d'un professeur de piano plutôt toxique, voilà, et malfaisant. C'est vraiment tout ce que je ne veux pas reproduire, voilà. Lui, il m'a dégoûté du piano, mon corps a réagi au stress d'une manière très violente, c'est-à-dire que j'avais des vomissements avant les cours, mes muscles se sont complètement raidis et atrophiés, voilà, j'avais les épaules rentrées sur elles-mêmes, je ne pouvais plus bouger les bras, je ne pouvais plus jouer de piano, quasiment. Ça en est suivi de longues années de rééducation corporelle et pianistique. Voilà, j'étais incapable de jouer, l'idée même de penser au piano me donnait des douleurs dans les bras, voilà. Donc j'ai trouvé par chance un professeur dont la spécialité c'était de rééduquer et d'aider les musiciens blessés. Je lui dois beaucoup. Je m'en rappelle très bien, le premier cours a duré, je pense, très longtemps, genre peut-être 3 heures. Et nous avons joué 5 minutes, mais on a beaucoup beaucoup parlé, c'était presque une séance de psychothérapie. Voilà, il a su trouver les bons mots déjà pour me mettre en confiance, mais ça a pris 5 ou 6 ans vraiment de retrouver mon niveau. Voilà, j'ai réappris le piano comme un débutant, avec 3 notes comme ça. Voilà, c'était beaucoup de patience. Sur le moment, on ne sait pas, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on fait ça pour quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on en a réellement envie? J'ai fait confiance et j'y suis allé pas à pas. Je pense que je joue mieux qu'avant, mais avec peut-être moins d'insouciance. Le premier palier, c'était jouer une heure sans avoir mal. Le deuxième palier, c'était jouer un morceau entier sans avoir de douleur, voilà, etc. Et un jour, j'ai fait un concert entier de 1h30 sans avoir mal, et dans la joie et la bonne humeur surtout, avec beaucoup de plaisir, et ça, c'était une vraie victoire.
Audric De Oliveira était notre pianiste cette semaine découverte, signée Vanessa Descoureaux, à retrouver sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi 13h50, la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. Aujourd'hui Virginie, nous partons en Gironde où l'on s'interroge sur l'avenir des derniers gardiens du phare de Cordouan.
Depuis longtemps, la nuit marine n'a plus de veilleurs à son chevet. Les hommes et les femmes ont dû quitter leur phare, regagner la terre ferme. Ils ne guident plus les navigateurs en leur ouvrant les bras jusqu'au port ou loin des écueils. La nuit est désormais balayée par des faisceaux automatisés et les bateaux équipés de GPS et radars. Au large de l'estuaire de la Gironde, à 7 km des côtes, le phare de Cordouan fait exception. Édifié à la fin du XVe siècle, haut de 66 mètres, le plus ancien phare de notre pays surgit entre l'Atlantique et le fleuve. Ici, contrairement aux autres phares français, des gardiens vivent toute l'année.
Et quelles sont leurs missions aujourd'hui ?
Eh bien, puisque la lumière est automatisée depuis 2006, techniquement, le phare fonctionne sans gardien. Leur rôle est donc ailleurs. À Cordouan, ils sont devenus les sentinelles d'un lieu d'exception. Classé monument historique dès 1862, la même année que Notre-Dame de Paris, ce phare voulu par Henri III, puis embelli par les rois jusqu'à Louis XIV, est un palais sur la mer. À l'intérieur, des parquets cirés, des boiseries, une chapelle éclairée de vitraux et même un appartement royal au sol de marbre. Battue par le vent, rongée par le sel, cette tour exige une vigilance permanente. Les gardiens participent à l'entretien général et d'avril à novembre, ils accueillent jusqu'à 25 000 visiteurs. Leur mission est donc essentielle, habiter le phare pour qu'il garde son âme.
Mais désormais, leur présence à l'année fait débat.
Oui, pour des raisons budgétaires, Cordouan, propriété de l'État, est géré par le syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde. Avec la baisse des subventions publiques, il est envisagé de supprimer le gardiennage pendant l'hiver. Aujourd'hui, 4 à 6 gardiens se relaient en binôme. Une perspective à laquelle s'oppose l'association des phares de Cordouan et de Graves. Elle rappelle que la présence humaine est indispensable pour dissuader les intrusions et protéger ce monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021 et restaurés à hauteur de 10 millions d'euros ces dernières années.
En fait, Virginie, le rôle de ces gardiens dépasse largement la question technique.
En effet, Jérôme, même si leur quotidien n'a plus rien à voir avec celui des anciens qui passaient leur quart sous la lanterne dans des cellules humides, l'oreille tendue vers la radio VHF, ils sont tous témoins de notre histoire maritime. Vivre dans un phare, c'est un métier de cœur. Faire corps avec l'estran, traverser des journées de brume, percher au milieu des flots. Le paysage devient un terrain d'exploration, comme si l'on pouvait, à force d'observation, y découvrir des clés, des passes cachées. Autrefois, il fallait un diplôme d'électromécanicien. Aujourd'hui, les profils sont différents. Les gardiens recherchent avant tout une expérience de liberté derrière ces murailles océaniques. Jean-Pierre Abraham, ancien gardien du phare d'Armen, dans son livre culte éponyme, écrivait « Cette passion des lueurs, est-ce la vie, cela ? Regarder une vieille peinture craquelée près d'une lampe, tandis qu'au dehors, l'espace vibre à mort, que la mer est folle ?» Oui, a-t-on envie de répondre, ce peut être la vie, une vie dans les marges, en prise avec les éléments qu'on voudrait défendre. Et peut-être faudrait-il alors envisager d'inscrire le métier de gardien au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Virginie Troussier, chaque vendredi dans ce 13-14, merci Virginie de C'est la France. Ah, c'est une chanson, votre invité aujourd'hui, Julien Baldacchino, est chanteur et comédien.
Andy Koch est à l'affiche d'une comédie, Mon Royaume pour un poney, c'est au théâtre de la Tour Eiffel. Cette année, il a aussi triomphé dans le retour sur scène des producteurs d'Alexis Michalik et il a choisi une reprise, Un garçon pas comme les autres, plus connu sous le nom de Ziggy, extrait de l'opéra rock Starmania et interprété ici par Céline Dion.
Quand Céline Dion l'a ressorti, le clip était très explicite. Et moi, j'étais assez jeune, j'étais adolescent et j'avais aucune représentation de l'homosexualité vraiment. Parce que je suis né dans un petit village du Pas-de-Calais de 800 habitants et vraiment dans les années fin 70-80, donc on était vraiment sur l'image qu'on avait. Il y avait Freddie Mercury, mais c'était un personnage, c'était très costumé, la cage aux folles, où il y avait Jacques Chazot aussi dans les émissions de Marité Gilbert Carpentier qui était un amuseur. Et il n'y avait pas une représentation quotidienne, en tout cas, de l'homosexualité. Et le clip, c'est vraiment dans un vestiaire de sport et tout, donc c'est très cliché, sensuel, dénudé, etc. Mais il y avait un truc de tiens, c'est quotidien. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui, c'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ça m'a éclairé là-dessus pour la représentation. Ça m'a accompagné à l'époque, en tout cas. C'était la fin de mon adolescence. Et quelques années plus tard, je suis arrivé à Paris. Et j'avais rien connu de tout ça auparavant. Donc Paris, ça m'a ouvert mon parcours artistique, parce que je suis venu à Paris pour ça, mais aussi pour j'ai commencé à avoir des émois, des choses comme ça, de vivre une vie en tant que jeune gay. J'avais vraiment aucun repère de tout ça et j'ai été élevé dans beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, etc. Mais il me manquait ce petit truc là de me dire mais qu'est-ce que c'est, pourquoi je ressens ça, comment je ressens ça, qu'est-ce qu'on vit de ça, qu'est-ce qu'on fait de ça. Et le clip ne m'a pas aiguillé surtout, mais en tout cas a été une vision du quotidien, je dirais, parce qu'évidemment je peux utiliser le terme normalité.
Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison. Essayer de l'oublier.
Et cette chanson, Julien, a aussi été interprétée, entre autres, par Fabienne Thibault et Isabelle Boulay.
Et un joli coup du sort, puisqu'Andy Koch a lui-même été le personnage de Ziggy dans Starmania à la fin des années 90.
Je ne savais pas que quelques années plus tard, j'allais jouer le rôle de Ziggy dans Starmania et que j'allais être choisi par Luc Plamondon pour jouer Ziggy au Casino de Paris. Donc, il y a comme une boucle et l'histoire est finalement jolie parce que ça, c'est un truc que je pouvais même pas imaginer quand j'écoutais dans ma chambre d'adolescent la chanson de Luc Plamondon, chanté par Céline Dion. Je pouvais pas penser un jour que j'allais jouer, interpréter ce personnage et être une figure qui est une figure finalement de la communauté gay, en tout cas à l'époque, parce que c'était un des personnages forts gays représentés dans un spectacle, et c'est important.
Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gays où il a des tas d'amis.
Quand vous étiez Ziggy sur scène, qu'est-ce que ça fait de rentrer sur scène sur une chanson qui a cette résonance-là?
Je réalisais pas vraiment, parce que c'est au fil du temps, et c'est même encore plus maintenant, bien après. Et puis Luc m'a fait vraiment le plus beau compliment qu'on m'ait fait de ma carrière à la première, le soir de la première. Après, on a bu du champagne et il m'a vraiment dit « T'es le Ziggy dont je rêvais à l'écriture ». Et ça, vraiment, ça m'émeut encore. Mais c'est un truc que je garde en moi, quoi, de me dire « Bah, j'ai été ça ». Aussi maintenant, avec les réseaux sociaux, je reçois des messages d'hommes qui avaient à peu près mon âge à l'époque et qui ont vu le spectacle, et ils m'écrivent sur Instagram ou sur Facebook des messages très gentils en me disant « Mais oh, j'ai vu le spectacle, j'avais tel âge et je me suis dit « Ah, oh, mais c'est génial, on parle de ce que je ressens, ça explique ce que je ressens, etc. » Et d'avoir contribué à ça, bah, à mon échelle, je trouve ça super, quoi.
Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui.
Ziggy, un garçon pas comme les autres, par Céline Dion. C'était le choix Julien d'Andicoc.
À l'affiche donc de Mon Royaume pour un Poney au théâtre de la Tour Eiffel jusqu'à fin mars à Paris.
Merci Julien, et à lundi. Quelques notes de Starmania pour le générique de cette semaine de 13-14. À la rédaction en chef, Cécilia Arbona, Sonia Princé, Thibaut Cavaillès et Lionel Thompson, assisté de Stéphane Rousset, Rachid Zourdani et Nicolas Sabat à la technique, Julien Dumont et Loïc Frapsos à la préparation, Aurore Mancip et Camille Poux-Jalaguier. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Qui est votre invité aujourd'hui?
Invité exceptionnel, un prix Nobel, Didier Queloz, astrophysicien, et c'est lui qui a découvert la première exoplanète avec Michel Mayor en 95.
On vous écoute, mais comme tous les jours, avec la plus grande attention. À tout de suite.